Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers auditeurs, nous allons terminer aujourd'hui la lecture du livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset dans le livre de poche. Nous avons vu que Léna est profondément touchée par le décès accidentel de Janaki et les paroles dures de Priti qui font suite à son désir de rentrer en France. En effet, ces événements font écho dans son passé au déchirement de la mort de François il y a bien des années, et elle ne se sent pas en état de continuer ce séjour en Inde. Parallèlement à ce départ, Lalita, qui a lu le courrier que lui a laissé Léna avant de partir, est déstabilisée par ce qu'elle y a trouvé. Lorsque Lalita se réveille le matin suivant, encore touchée par ce qu'elle a lu, elle pensait encore rester un peu au lit, mais des bruits et mouvements bizarres dans le daba l'incitent à se lever pour chercher à voir ce qui se passe. Arrivée en bas, Marie s'avance vers Lolita, un sourire mielleux aux lèvres, et lui dit « J'ai une surprise pour toi !» Reprenons notre lecture pour en savoir plus. Chapitre 25. Lorsque Lalita s'éveille ce matin-là dans la chambre exiguë qu'elle partage avec Ambu, au-dessus du daba, le jour est déjà levé. Le petit garçon n'est plus dans son lit. L'adolescente a les traits tirés. Elle a passé une partie de la nuit à relire la lettre de Léna. Ses mots l'ont plongée dans un profond désarroi. Elle s'apprête à s'enfouir à nouveau sous la couverture lorsque son attention est attirée par des bruits venant du restaurant en bas. Généralement, tout est calme à cette heure. Les premiers clients n'arrivent jamais avant midi. Un peu surprise, Lalita se lève, s'habille et quitte la pièce. Elle descend sur la terrasse où règne une agitation inhabituelle. Aidée d'Ambu et d'une voisine, Marie s'affaire à dresser une grande table ainsi qu'un buffet. De la cuisine s'échappent des odeurs de sambar et de biryani, un plat à base de riz, de viande et d'épices. Des plats réservés aux grandes occasions et qu'elle n'a pas coutume de préparer. James revient à cet instant, chargé d'une impressionnante cargaison de poissons, certainement achetés au marché. La pêche qu'il rapporte chaque jour de ses voyages en mer excède rarement la moitié. En la voyant débarquer au milieu de ses préparatifs, Marie s'avance vers Lalita, un sourire mielleux aux lèvres. « J'ai une surprise pour toi » annonce-t-elle. Étonné de cette sollicitude, il est rare qu'on lui manifeste tant d'attention. La jeune fille suit Marie jusqu'à une chambre où celle-ci la fait pénétrer. C'est là qu'elle la voit, une robe rouge et dorée assortie de voilages, semblable à celle de Janaki le jour de son mariage. Dans le hall des départs qu'elle a si souvent arpenté, Léna présente son billet et son passeport au comptoir d'enregistrement. Elle abandonne sa valise ou dépose bagages. Elle se dirige vers la longue file d'attente menant au contrôle de sécurité quand son portable se met à sonner. Elle décroche. C'est Kumar. Il paraît affolé. Lalita est là, crie-t-il, à l'école. Elle s'est enfuie de chez James et Marie. Ils ont prévu de la marier au Daba aujourd'hui. Léna se fige. Je passais prendre des livres et je l'ai trouvé dans la cour, poursuit l'instituteur. À cet instant, résonne un bruit de moteur suivi de portières qui claquent. Léna entend une respiration saccadée, une cavalcade, des interjections. Au bout du fil, Kumar se met à hurler. Ils sont là! James et ses cousins, ils sont venus la chercher. On s'est enfermé dans la classe. Priti est partie et je n'arrive pas à la joindre. Léna sent monter la panique. Ah, allô? Allô, Kumar? Mais il ne répond plus. Autour de lui, Léna perçoit un tumulte. L'écho de coups sur une porte, le fracas de vitres brisées. Elle ne peut qu'imaginer la scène, impuissante et terrifiée. C'est alors qu'il retentit. Un cri, un hurlement qui brise des années de silence, de soumission, de renoncement. Cette voix, Léna ne l'a jamais entendue, mais elle la reconnaît pourtant en un instant. Elle n'a pas besoin de voir, d'entendre ces mots, pas besoin de phrases pour l'identifier. Cette voix, c'est Lalita. Elle le sait. Oubliant alors le bagage qu'elle vient d'enregistrer et l'avion censé la ramener en France, Léna entreprend de remonter la file des passagers, dont certains l'invectivent furieusement. Elle se précipite vers la sortie. Dans le taxi qui l'emporte en direction du village, elle tente de joindre Priti. La jeune chef ne répond pas. Après 3 appels, elle finit par décrocher. Elle est au milieu d'une manifestation, souffle-t-elle, avec les filles de la brigade. Léna ne la laisse pas continuer. Elle raconte Kumar et Lalita enfermés à l'école. Elle la supplie de rentrer au plus vite. Elle-même est en chemin. Réagissant au quart de tour, Priti promet de foncer. Durant le trajet qui la ramène à Mahabalipuram, Léna se maudit d'avoir abandonné son poste. James a dû longuement préparer son projet. Il a attendu la fin de l'année scolaire et le départ de Léna pour le mettre à exécution. Il savait qu'elle s'y opposerait. L'affaire a été planifiée, préméditée, une trahison savamment orchestrée. En mariant Lalita, il se débarrasse définitivement d'elle. Depuis l'arrivée d'Ambou, elle ne lui est plus d'aucune utilité. Elle est un fardeau, une personne de plus à nourrir, à loger. Il ne doit pas même avoir mauvaise conscience, se dit Léna. Comme tous les chefs de famille du village, il est sûrement convaincu de son bon droit. Certain qu'il accomplit son devoir en la plaçant sous l'autorité et la protection d'un mari. Son changement de religion n'a modifié ni ses coutumes, ni ses convictions. Qu'il adore Jésus ou Shiva, il est le produit d'une tradition enracinée depuis des siècles dans sa communauté. Il a dû âprement négocier, discuter de longues heures avec les parents du futur marié pour ramener la dot à une somme dérisoire. Une orpheline, une gosse abandonnée, la fille d'une videuse de latrine et d'un chasseur de rats. Léna imagine aisément les arguments qu'il a invoqués pour la céder à peu de frais. Elle s'en veut de n'avoir rien vu venir, de n'avoir pas anticipé cette ultime trahison du tenancier. Quand elle parvient enfin à l'école, elle trouve Kumar au milieu de la cour, entouré des filles de la brigade qui viennent juste d'arriver. L'instituteur a le visage tuméfié. « Ils ont défoncé la porte, » explique-t-il accablé. « J'ai essayé de résister, mais ils étaient trop nombreux. Ils l'ont amené. » Il ne faut qu'une seconde à Priti pour donner le signal. D'un geste, elle ordonne à sa troupe de remonter en selle. « Toutes au Daba !» Léna se précipite. Elle vient aussi. Kumar s'élance également, malgré son état. Hors de question qu'il reste ici. Il grimpe derrière une lieutenante, tandis que l'escadron démarre et prend la direction de la mer, dans un nuage de fumée. Dans la rue du Daba, décorée pour l'occasion de fleurs et de guirlandes en papier, de nombreux véhicules sont déjà stationnés. Des invités patientent sur la terrasse en attendant la jeune mariée. Les scooters de la brigade arrivent dans un vacarme assourdissant et se garent devant le restaurant. Entouré d'une escorte musclée qui ne lui laisse aucun espoir de s'enfuir, Lalita paraît au bras de James. Elle est vêtue de la robe rouge et or, trop grande pour elle, que Marie a dû emprunter pour la journée à une tante ou à une voisine. Non loin de là se tient son futur époux, un homme d'une trentaine d'années qui la regarde s'avancer en détaillant sa silhouette et ses traits. Lalita semble terrifiée. On dirait une biche prise dans les faisceaux d'un phare sur une route en pleine nuit. Dans une main, elle serre la poupée de Phulan Devi, souvenir de ses parents, que Marie s'entête à lui faire lâcher, tandis que le pandit l'attend d'un air impatient. Soudain, une armada de combattantes en rouge et noir surgissent et se jettent sur James et ses cousins. Un observateur étranger pourrait croire à un hold-up ou à quelque opération de l'armée. Usant de leurs pieds et de leurs poings, Priti et sa troupe renversent le tenancier qui tombe de tout son poids sur le buffet, entraînant dans sa chute les nombreux plats préparés pour l'occasion. Les autres hommes de l'assemblée tentent de s'interposer, mais le lieutenant n'a pas peur d'en découdre. Kumar n'est pas en reste non plus. Les techniques du Nishastrakala et du Kalari réunis se révèlent d'une redoutable efficacité. La terrasse se transforme vite en arène. Laissant libre cours à sa colère, Priti se bat comme une lionne. Au milieu de la mêlée, Léna parvient à rejoindre Lalita et la prend dans ses bras. Tant bien que mal, elle l'entraîne en direction de la sortie, tandis que Priti va récupérer la poupée qu'elle arrache des mains de Marie, tétanisée. D'un sifflement puissant, la chef rappelle alors ses troupes et ordonne le repli. En un éclair, les filles vident les lieux, regagnent leurs engins. Léna fait monter Lalita entre elle et Priti. Hors de lui, James tente de les rattraper, mais elle s'éloigne déjà. Il les couvre d'insultes et hurle qu'il ne veut plus jamais revoir Holly de sa vie. La suite, les filles ne l'entendent pas. La chef appuie sur l'accélérateur et tourne au bout de la rue, les emportant à tout jamais loin du Daba. Sur le scooter lancé à pleine vitesse, Léna est prise d'un étrange sentiment, celui d'avoir trouvé une famille. Elle sent la frêle silhouette de Lalita blottie contre elle, la puissante énergie de Priti qui les entraîne. Elles sont là, toutes les trois, entamées, mais en vie. Trois combattantes, trois rescapées, trois guerrières. Chacune a traversé l'enfer et lui a survécu. Pas besoin d'avoir le même sang pour être sœur, fille ou mère, songe Léna. Elle se dit que la vie ne tient qu'à un fil de cerf-volant tenu par une enfant, un fil qui les relie à présent.
Thank you.
Épilogue. Vous n'êtes pas votre pays, votre race, votre religion. Vous êtes votre propre moi avec ses espoirs et l'assurance de posséder la liberté. Trouvez ce moi, attachez-vous à lui et vous serez sauf et en sécurité. Le grand Maharaja. Less is more. Dans le Mahabharata, poème épique de l'Inde ancienne, il est raconté que Krishna fut blessé à la guerre en combattant contre le roi Shishupal. Alors que son doigt saignait, son adepte Draupadi s'empressa de déchirer un morceau de tissu et de le nouer autour de son poignet pour arrêter l'hémorragie. En reconnaissance de ce geste, Krishna promit de lui accorder sa protection inconditionnelle. De cette histoire est née la fête de Raksha Banandan, célébrée chaque année lors de la pleine lune du mois de Shravana à la fin août. On l'appelle communément le festival des frères et sœurs. Si, traditionnellement, la sœur offre un bracelet à son frère en signe d'affection, la coutume s'est étendue à tous les liens de fraternité entre deux êtres humains. Pour l'occasion, Priti a revêtu un sari, d'ordinaire peu féminine, arborant invariablement son uniforme de combat. Elle paraît transformée. Pour Léna, les filles ont tenu à coudre un salwar kameez qu'elles finissent d'ajuster avant de lui passer un collier de fleurs autour du cou. En se voyant ainsi apprêtée, Léna se sent émue. Cette tenue est bien plus qu'une coquetterie, elle le sait. C'est une façon de lui dire « Tu es des nôtres ». Tu fais partie de cette communauté. La cérémonie commence par l'allumage d'une petite bougie. Debout, en face de Léna, Priti noue à son poignet un rakhi, un petit cordon tissé. Selon la tradition, il est considéré comme sacré et matérialise le lien entre elles, désormais indéfectible. Priti récite ensuite des vœux, lui souhaitant bonté, prospérité, avant d'apposer sur son front un tilak, une marque de couleur qui lui portera chance et bonheur. Il ne s'agit pas d'un simple hommage à leur amitié, mais d'une véritable adoption. Par ce rituel, Priti et Léna deviennent sœurs. La jeune chef a perdu la sienne il y a des années. Elle en retrouve une aujourd'hui. En sanskrit, raksha signifie protection et bandhan attaché. Le lien qui les unit transcende celui de leur naissance, leur appartenance à un pays ou à une religion. Autour d'elle sont réunies les filles de la brigade, les élèves de l'école et leurs parents, ainsi qu'une partie des habitants du quartier dont la présence donne à l'événement un tour étrangement solennel. Après Priti vient Lalita. Elle a également un bracelet pour Léna. Elle aussi l'a choisi, désigné. Léna sourit, bouleversée. Elle songe, après tant d'épreuves, la vie lui fait un cadeau. Quelle étrange ironie! Elle qui n'a jamais eu d'enfant se voit aujourd'hui adoptée. Elle que le drame a dépossédée de celui qu'elle aimait a retrouvé un clan, une famille. Elle qui dérivait entre deux continents est à présent solidement arrimée. Après le sauvetage de Lalita, elle n'est pas repartie en France. Elle a pris la décision de rester vivre ici. La jeune fille a besoin d'elle à ses côtés. Comme il était impensable d'agrandir les cahutes, Léna s'est mise en quête d'un endroit où elle pourrait s'installer toutes les trois. En se baladant près de la mer, elle a repéré un terrain et songe à y bâtir une maison. L'espace n'est pas très grand, mais il offre une belle vue et le site est par chance dépourvu de cobras. Ce ne sera jamais la Bretagne, jamais le golfe du Morbihan dont elle rêvait avec François, mais celui du Bengale, rugueux et brûlant, une terre aussi âpre et insondable que le cœur de ses habitants. Si un adage hindou affirme que le monde n'est jamais ce qu'il paraît, celui-ci, assurément, n'a pas encore livré tous ses secrets. Du sentiment d'être écartelée entre deux mondes, entre deux vies, Léna a compris la nécessité d'être soi-même, son propre refuge, son abri. Ce qu'elle possède tient désormais dans une valise, à l'image de cette gibecière que les bonzes reçoivent lors de leur ordination. En signe de renoncement aux biens matériels, ils ne doivent rien garder de plus que ce qu'elle peut contenir. Léna a fait le deuil de sa vie passée, de sa vie rêvée, comme d'une certaine idée d'elle-même. Elle s'est délestée de toutes les choses qui lui paraissaient essentielles. Elle sait, à présent, qu'elle a trouvé sa place, qu'elle n'a plus besoin de chercher. Elle se dit que l'air est à elle, que la lumière, le ciel et la terre, les arbres, les couleurs, les senteurs, le lever du soleil sur la mer sont à elle, que ses enfants sont les siens, qu'elle appartient au monde comme il lui appartient. Chaque matin, elle se poste dans la cour pour voir arriver ses élèves. Depuis la rentrée, l'école compte des nouvelles recrues, trois petits du quartier. Un peu intimidés les premiers jours, ils n'ont pas mis longtemps à s'intégrer. Il faudra bientôt ouvrir une deuxième classe, se dit Léna. Elle sait qu'il y aura d'autres combats, d'autres drames sans doute, d'autres mariages, d'autres embouts dans d'autres dabas, mais aussi d'autres victoires et d'autres joies. Pour l'heure, elle veut seulement penser à ses enfants qui jouent autour du grand banyan. Il lui semble que la vie est là, tout entière dans leurs rires, dans leurs cheveux ébouriffés, dans leurs dessins, dans leurs chants, dans leurs cerfs-volants de papier. Elle songe à la vie qui l'entraîne et l'emporte, tel un fleuve impétueux, indifférente à ses tourments. La vie qui continue malgré tout, malgré absolument tout. La vie toujours malgré tout. Des remerciements. À Juliette, Jost et Olivier, Nora, pour leur confiance, ainsi qu'à toute l'équipe des éditions Grasset, à Jacques Monteau pour son amitié et sa générosité qui ont nourri l'écriture de ce roman, à Hélène, Guilleron et Gampat qui ont accepté de me raconter leur histoire, à Moukesh pour son aide si précieuse, à Sarah Kaminski pour sa bienveillance et son soutien constant, à Fatima Pires pour l'entretien qu'elle m'a accordé, à Laurence Davaux pour ses conseils avisés, à mes parents, mes lecteurs de la première heure, et à Oudi, chaque jour à mes côtés. Tandis que Léna est déjà à l'aéroport pour quitter l'Inde, au Daba, Marie et James préparent rien de moins que le mariage de Oli. Lolita pour Léna et ses amis. Lalita aura 12 ans en fin d'année et le futur époux a une trentaine d'années. Léna, déjà au comptoir d'enregistrement, a reçu un appel affolé de Kumar qui lui dit que Lolita s'est enfermée au Dala avec son mariage. Et il est en préparation. Elle est dans l'école avec lui et Kumar est barricadé avec elle. Il n'arrive pas à joindre Priti. Léna réussit à la contacter et revient elle-même en taxi à l'école. Chers auditeurs, les dernières pages du livre sont tellement mouvementées qu'il est impossible de les résumer. Je me permets donc de relire la fin de cette histoire qui verra la délivrance de Lolita et le retour définitif de Léna à l'école. Je relis pour vous quelques pages. Écoutez. C'est alors qu'il retentit, un cri, un hurlement qui brise des années de silence, de soumission et de renoncement. Cette voix, Léna ne l'a jamais entendue, mais elle la reconnaît pourtant en un instant. Elle n'a pas besoin de mots, pas besoin de phrases pour l'identifier. Cette voix, c'est Lalita, elle le sait. Oubliant alors le bagage qu'elle vient d'enregistrer et l'avion censé la ramener en France, Léna entreprend de remonter la file des passagers, dont certains l'invectivent furieusement, et se précipitent vers la sortie. Dans le taxi qui l'emporte en direction du village, elle tente de joindre Priti. La jeune chef ne répond pas. Après 3 appels, elle finit par décrocher. Elle est au milieu d'une manifestation, souffle-t-elle avec les filles de la brigade. Léna ne la laisse pas continuer. Elle raconte. Kumar et Lalita enfermés à l'école. La supplie de rentrer au plus vite. Elle-même est en chemin, réagissant au quart de tour. Priti promet de foncer. Durant le trajet qui la ramène à Bahalipuram, Léna se maudit d'avoir abandonné son poste. James a dû longuement préparer son projet. Il a attendu la fin de l'année scolaire et le départ de Léna pour la mettre à exécution. Il savait qu'elle s'y opposerait. L'affaire a été planifiée, préméditée, une trahison savamment orchestrée. En mariant Lalita, il se débarrasse définitivement d'elle. Depuis l'arrivée d'Ambu, elle ne lui est plus d'aucune utilité. Elle est un fardeau, une personne de plus à nourrir, à loger. Il ne doit pas même avoir mauvaise conscience, se dit Léna. Comme tous les chefs de famille du village, il est sûrement convaincu de son bon droit, certain qu'il accomplit son devoir en la plaçant sous l'autorité et la protection d'un mari. Son changement de religion n'a modifié ni ses coutumes, ni ses convictions qu'il adore Jésus ou Shiva. Il est le produit d'une tradition enracinée depuis des siècles dans sa communauté. Il a dû âprement négocier, discuter de longues heures avec les parents du futur marié pour ramener la dot à une somme dérisoire. Quand elle parvient enfin à l'école, elle trouve Kumar au milieu de la cour, entouré des filles de la brigade qui viennent juste d'arriver. L'instituteur a le visage tuméfié. « Ils ont défoncé la porte, » explique-t-il accablé. « J'ai essayé de résister, mais ils étaient trop nombreux. Ils l'ont amené. » Il ne faut qu'une seconde à Priti pour donner le signal. D'un geste, elle ordonne à sa troupe de remonter en selle. « Toutes au daba !» Léna se précipite. Elles viennent aussi. Kumar s'élance également, malgré son état. Hors de question qu'il reste ici. Il grimpe derrière une lieutenante, tandis que l'escadron démarre et prend la direction de la mer dans un nuage de fumée. Entouré d'une escorte musclée qui ne lui laisse aucun espoir de s'enfuir, Lalita paraît au bras de James. Elle est vêtue de la robe rouge et or, trop grande pour elle, que Marie a dû emprunter pour la journée à une tante ou à une voisine. Non loin de là se tient son futur époux, un homme d'une 30aine d'années qui la regarde s'avancer en détaillant sa silhouette et ses traits. Lalita semble terrifiée. On dirait une biche prise dans les faisceaux d'un phare sur une route en pleine nuit. Dans une main, elle serre la poupée de Fulindavi, souvenir de ses parents, que Marie s'entête à lui faire lâcher tandis que le pandit l'attend d'un air impatient. Soudain, une armada de combattantes en rouge et noir surgissent. Elles se jettent sur James et ses cousins. Un observateur étranger pourrait croire à un hold-up ou à quelque opération de l'armée. Usant de leurs pieds et de leurs poings, Pretty et sa troupe renversent le tenancier qui tombe de tout son poids sur le buffet, entraînant dans sa chute les nombreux plats préparés pour l'occasion. Les autres hommes de l'assemblée tentent de s'interposer, mais les lieutenants n'ont pas peur d'en découdre. Kumar n'est pas en reste non plus. Les techniques du Nishastratkala et du Kalari réunies se révèlent d'une redoutable efficacité. La terrasse se transforme vite en arène. Laissant libre cours à sa colère, Pretty se bat comme une lionne au milieu de la mêlée. Lena parvient à rejoindre Lalita et la prend dans ses bras. Tant bien que mal, elle l'entraîne en direction de la sortie, tandis que Pretty va récupérer la poupée qu'elle arrache des mains de Marie tétanisée. D'un sifflement puissant, la chef rappelle alors ses troupes et ordonne le repli. En un éclair, les filles vident les lieux et regagnent leurs engins. Lena fait monter Lalita entre elle et Pretty. Hors de lui, James tente de les rattraper, mais elle s'éloigne déjà. Il les couvre d'insultes et hurle qu'il ne veut plus jamais revoir Holly de sa vie. La suite, les filles ne l'entendent pas. La chef appuie sur l'accélérateur et tourne au bout de la rue, les emportant à tout jamais loin du Daba. Sur le scooter lancé à pleine vitesse, Lena est prise d'un étrange sentiment, celui d'avoir trouvé une famille. Elle sent la frêle silhouette de Lalita blottie contre elle, la puissante énergie de Pretty qui les entraîne. Elles sont là toutes les trois, entamées mais sans envie tout de même. Trois combattantes, trois rescapées, trois guerrières. Chacune a traversé l'enfer et lui a survécu. Pas besoin d'avoir le même sang pour être sœur, fille ou mère, songe Lena. Elle se dit que la vie ne tient qu'à un fil de cerf-volant tenu par une enfant, un fil qui les relie à présent. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver le livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset dans nos podcasts sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. Vous pouvez aussi écouter le samedi à 7h45 sur le 103.2 FM et DAB+, notre émission radio « La brève de Je lis pour vous ». Lecture et signification de citations et dictons tels que « Faire florès »,« Riche comme Crésus » ou « Un joyeux drille ». À bientôt pour un nouveau livre !